Voici des textes qui peuvent nous intéresser pour casser les fausses images que l'on peut avoir de Dieu. D'abord, dans la Bible, il est bien dit « Tu ne te feras aucune image de Dieu ». Mais intellectuellement, c'est toujours un peu difficile. On a des clichés. Si je vous dis « vengeance », non, pardon, d'abord « revanche », bon, si on est en train de faire une partie de jeu, je vais prendre ma revanche. C'est sous-entendu, l'autre, il a été plus fort que moi tout à l'heure. Je vais prendre ma revanche. Je vais être au-dessus. Ou même mieux, je vais le fracasser. Je vais le mettre minable. On dit ça dans le jeu, là. Et si je vous dis vengeance, de suite, dans le cœur, on entend bien. C'est très négatif. Souvent, la vengeance, elle est préméditée. Elle a eu le temps de mariner longtemps dans notre cœur et dans nos pensées. On a imaginé les choses les pires qui soient pour faire du mal à celui qui nous a fait du mal. Quand il y a eu de l'injustice ou je ne sais trop quoi d'autre. Et le sentiment de vengeance fait partie souvent de l'humain, au moins quelques instants. Et aujourd'hui, Isaïe nous dit que arrive la vengeance de Dieu. Ouf ! On aimerait tellement un Dieu qui balaye tous les méchants et qui garde que les bons. Bien évidemment, je fais partie des bons. C'est une évidence. Et tous les autres, tant pis pour eux. C'est le dieu Jupiter, comme je dis, ou Zeus. Rien à voir avec le dieu chrétien, le dieu révélé par le Christ. Qu'est-ce qu'il dit de la vengeance de Dieu ? Se dessilleront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles du sourd. Le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Quelle est donc cette vengeance de Dieu ? C'est que l'humain soit en plénitude. Qu'il puisse voir pour contempler, entendre pour s'émerveiller, marcher pour aller à l'aventure, à la découverte, à la rencontre. Que sa bouche crie de joie, c'est-à-dire soit dans l'allégresse, bénisse Dieu sans cesse. Voilà, alors du coup on comprend bien que le mot vengeance ne va plus du tout avec ce que nous avons dans la tête. Est-ce que j'espère que tout humain puisse avancer ainsi, puisse donner le meilleur de lui-même pour rendre gloire à Dieu. Un autre cliché aussi sur Dieu, un autre passage d'évangile que celui que nous venons d'écouter. On entend une syrophénicienne qui vient embêter Jésus et lui de lui dire « Je n'ai été envoyé qu'aux enfants perdus d'Israël. » C'est une syrophénicienne, va-t'en dehors. Elle insiste tellement, elle a cette phrase magnifique « Les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table. » Et la réaction de Jésus « Ta foi est grande !» Là, nous voyons Jésus qui est passé par Tyre, Sidon, la mer de Galilée, et qui se trouve en plein territoire de la Décapole, c'est-à-dire le monde païen. Le monde païen, contrairement à ce qu'on a trop souvent dans la tête, ce n'est pas des non-croyants. Ce sont des gens qui croient autrement. Ils peuvent être polythéistes, ils peuvent être, avoir de la foi en différentes choses. Et ils viennent voir Jésus, ces païens, en lui présentant une personne handicapée. Un peu comme le même récit où ils avaient ouvert le toit, hein, quatre brancardiers qui ont descendu, là aussi un malade. Et Jésus, encore une fois, qui voyant leur foi. Alors ici, ce n'est pas noté en tant que tel, mais on peut bien comprendre que Jésus, il est incapable. Il est incapable de ne pas faire le bien quand on lui demande. Il ne peut pas s'en empêcher. Il ne demande pas s'il a été circoncis, s'il a fait ses différentes prières ou quoi que ce soit. Il voit des gens qui disent « Toi, tu es le maître de la vie. » Nous avons confiance. Nous savons que tu peux. Merveille que leur foi et Jésus s'exécute. Demandez, vous recevrez. Jésus se met à l'écart et fait des gestes. Souvent, il a des paroles, mais Jésus s'adapte. Il sait qu'il est face à un sourd, donc il ne va pas se mettre à parler. Donc, il va faire des gestes pour qu'il comprenne. Mais des gestes dans l'intimité. Je te touche les oreilles. Imaginez si quelqu'un s'approche de vous et qui vous touche les oreilles. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ou encore plus intime, ma salive sur ta langue. Ouh! Jésus, c'est celui qui vient à la rencontre au cœur même de notre intimité. Et peut-être aussi pour ça qu'il se met à l'écart. Est-ce que je prends des temps où je suis à l'écart pour rencontrer mon Seigneur et mon Dieu? Et puis, chose extraordinaire, donc il lui guérit les oreilles, il entend, il lui guérit la langue, donc il se met à parler. Donc il parle correctement. Et quelle est la parole de Jésus? Franchement, il m'a fait rire dans ma méditation. Maintenant que tu peux parler, je te demande de te taire. Pourquoi Jésus demande si régulièrement, quand il fait des guérisons, ne le dit à personne? En plus, il sait que c'est voué à l'échec. C'est que bien souvent, on va se tromper dans le message du Christ. On aurait tendance à le prendre pour un magicien. Abracadabra, toc, ça y est, il est guéri. Et X fois, Jésus va revenir là-dessus. Ne te trompe pas du message que je transmets. L'important n'est pas d'être guéri. L'important est de savoir où est la vie. Et nous connaissons bien des personnes qui ont de multiples handicaps et qui sont beaucoup plus rayonnants de vie que des personnes dites en bonne santé. Jésus, il est le maître de la vie. Est-ce que je le laisse agir en moi pour que je sois lumineux là où je suis, quelle que soit ma condition? Là encore, un cliché à faire tomber. Enfin, Jacques, dans sa lettre, nous invite à faire une mise en pratique de cela. Parce que le début de la lettre, il dit bien, hein, « Dans votre foi en Jésus-Christ ». Donc il parle bien aux chrétiens. N'aie aucune partialité. Quand tu rencontres quelqu'un, tu rencontres la présence de Dieu, quel que soit son statut. Combien de fois on peut être marqué par ça? Les règles de société. Ah, monsieur le directeur, oh, monsieur le président de telle association, tel truc. Oh. Et l'autre pauvre clampin, là, qui fait juste le balayage, on ne le calcule pas. Quand j'étais en communauté dans le Nord, j'ai connu un homme d'entretien qui a passé toute sa vie à entretenir un établissement scolaire. Il s'appelait Élie. Et il avait une petite maison, toute simple, dans un quartier très huppé. Et en face de chez lui, il y avait un homme plus que millionnaire. C'était un chef d'entreprise qui avait très très bien réussi, mais qui était aussi un homme très simple. Et Élie, qui aimait le jardin, donc était souvent sur le bas de la porte, enfin sur près de la route, excusez-moi. Il y a les voitures qui passaient, mais qui ne le calculaient jamais, quoi. Ça passait, basta. Et un jour, ce monsieur très riche traverse la route, enfin plusieurs fois, mais là, sur ce cas-là, et il est resté longtemps à discuter avec Élie. Et plusieurs voitures sont passées, et il saluait le monsieur riche. Et les autres fois après, quand Élie se retrouvait de nouveau devant son jardin, les mêmes voitures qui passaient saluaient Élie. Parce que si le monsieur riche parlait à cet homme, c'est sûrement que c'était quelqu'un d'important. C'est quand même étonnant, non? Est-ce que je sais faire de chacune des rencontres une rencontre divine? Ou est-ce que je reste sur les clichés, sur les gens? Oh, ben ça, c'est ceux-là, ben ce sont ceux qui vont au 115. Hein, ici au berceau, là. Leur bouffe. Or, quand on prend le temps de discuter avec eux, ils ont beaucoup à nous apprendre sur ce qu'est la vie. Et ainsi de suite. Jacques nous dit que notre foi en Jésus-Christ a des conséquences sur notre manière d'être, sur notre relation aux autres. Et que c'est ainsi, en sachant révéler la beauté de vie qu'il y a en chacun, en sachant nous en émerveiller, en sachant l'écouter, en sachant aller à la rencontre, alors à ce moment-là, nous continuons la mission même du Christ. C'est ce que saint Vincent n'arrêtait pas de redire et de re-redire à ses disciples et aux sœurs, enfin à ses missionnaires et aux sœurs. Nous sommes les continuateurs de la mission même de Jésus-Christ. Soyons dans la joie d'être appelés à une telle mission et demandons la grâce d'être renouvelés pour la vivre pleinement.